BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos, c'est chaque vendredi à retrouver aussi tout au long du week-end sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Nos NFT, rien qu'à nous, nos talents non fongibles, rien qu'à nous, sont présents. Ils répondent une nouvelle fois à l'appel de BFM Business. Thibaut Boutroux pour Meria, bonjour Thibaut. Et Claire Balva, elle est avec nous en plateau. Claire, salut Claire. Content de vous retrouver également, VP Stratégie pour De Bloc. On est ravis de vous accompagner. On va parcourir ensemble l'ensemble de l'actu de cette semaine très riche, bien sûr, avec l'élection de Donald Trump. Mais d'abord, Xavier Fenot est avec nous parce que le Bitcoin est au firmament sur les plus hauts historiques, ce Bitcoin. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Associé chez Interactive Trading, c'est Noël avec un peu plus d'un mois d'avance là sur les cryptos.
Ah bah oui, vous l'avez dit, hein. Les crypto-enthousiastes ont salué l'élection de Trump, hein, qui est plus souple que l'administration Biden avant lui, côté régulation, plus favorable à l'innovation, envisage des réserves stratégiques en Bitcoin. Bon, je pense que vous allez en parler en détail juste après, et ça catalyse effectivement ce marché, hein, comme je dis ici depuis des mois, mollasson en 2024. Alors sur le Bitcoin, c'est différent, plus fort, plus sûr, peut-être moins risqué aussi, en fait une sorte de point d'entrée tout au long de cette année sur le marché crypto. Lui n'a absolument jamais donné de signal de faiblesse. Hein, même à 50 000 dollars il y a deux mois, c'était pas bearish du tout. Hein. Même après huit mois de va-et-vient dans un range, bah, la tendance long terme reste haussière et se poursuit finalement logiquement. Alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette impulsion haussière sur des ATH, des nouveaux records historiques à 76 000 dollars, qui devra être maintenue ces prochains jours parce que c'est une zone, on l'a oublié peut-être, mais sur laquelle le Bitcoin a échoué à passer à 8 reprises cette année. Et vu que bah, l'adage « jamais 809 » n'existe pas, on peut dire que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc aujourd'hui, on peut se projeter, oui, pourquoi pas, vers 85 000, voire même 100 000 dollars, hein, ce qui est d'ailleurs le report du rang dans lequel on a été sur Bitcoin pendant 8 mois. Mais en fait, si vous voulez, pour moi, la priorité, c'est pas de savoir finalement jusqu'où on va aller et quel sera le point haut. Hein, je laisse faire ça à ceux qui s'amusent à le deviner. Mais c'est surtout finalement de tenir les 70 000 dollars ces prochains jours et semaines, parce que c'est là-dessous que techniquement, bah, on remettrait en cause cette impulsion haussière et cette tendance haussière à court terme. Et donc, on réintégrera encore ce range qu'on avait eu depuis le mois de mars, entre 75 000 et 55 000 dollars. Donc oui, c'est un catalyseur à court terme. Oui, c'est encourageant. Et oui, bah, malgré les vents et marées, finalement, cette année, il faut rester enthousiaste. Et je pense ne pas céder quand même au FOMO en achetant tout et n'importe quoi. Parce que voilà, que tout peut monter finalement en ligne droite à partir de maintenant. Tous ceux qui s'y sont risqués cette année bah, n'ont peut-être pas profité ou au moins se sont fait très peur. Donc, au-dessus des 70 000 dollars, tout ira bien, d'autant plus que Bitcoin est la crypto qui a surperformé cette année, même s'il y en a quelques autres hein, qui ont tenu le choc et repartent très vite. Hein. Je pense par exemple à Solana qui est pas loin de ses records historiques. Et Bitcoin finalement prouve encore une fois sa force avec de nouveaux records historiques cette semaine.
Et l'Ether, alors du coup, l'Ether parvient à suivre, à prendre la roue du Bitcoin ou l'écart se creuse encore là, Xavier ?
Oui, il y a du mieux. Il y a effectivement du mieux depuis quelques jours. Il était plus faible et délaissé quasiment toute l'année. Mais il n'avait pas non plus remis en question finalement sa tendance long terme haussière au-dessus des 2000 dollars. On s'est fait peur à 2200 dollars plusieurs fois cette année. Maintenant, il titille les 3000 dollars. C'est encourageant pour la suite. Pour lui, ce sera les 2700 dollars à défendre ces prochains jours pour rester dans cette belle impulsion qu'il a fait cette semaine. En deux jours, hein, il a pris 20%. Voilà. Donc, on continue dans cette dynamique positive globalement. Et je termine en disant bravo à ceux qui n'ont pas lâché quand même en cette année 2024 et ont persévéré. Mais on va quand même rester concentré.
Xavier Fenot, Interactive Trading, merci beaucoup Xavier. C'est vrai qu'elle a été riche, cette incroyable semaine pour l'univers crypto et en général, hein, au global, les marchés actions aussi, Wall Street, quelle semaine. Le Bitcoin donc a battu un nouveau record. Donald Trump lui offre ce record. Est-ce que tout est pro-crypto, tiens, dans le programme de Donald Trump ? On posera la question à nos pros des cryptos. On passera au crible chacune des promesses de Donald Trump et on regardera en face, on regardera dans les yeux les angles morts aussi de Donald Trump. Polymarket, on en parle beaucoup et depuis notamment cette campagne présidentielle américaine, eh bien Polymarket qui permet de faire des paris sur la blockchain. Polymarket pourrait bientôt se trouver interdit en France. C'est des informations de The Big Whale, on va voir ce que ça signifierait. Et puis les paiements en crypto, eux, avancent. Ingenico qui accélère une nouvelle solution de paiement via la plateforme crypto.com. On fêtera aussi dans ces pros des cryptos les 11 ans d'Ethereum, les 11 ans du white paper d'Ethereum. C'est votre machine à concentrer l'essentiel. On est ensemble pour 20 minutes. 20 minutes essentielles, forcément.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Ils sont là, fidèles au poste, pour une semaine assez exceptionnelle quand même. Claire Balva pour De Bloc. Bonjour Claire.
Bonjour.
Thibaut Boutroux, ici avec nous pour Meria. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Ravi également de vous retrouver. Donc Bitcoin a battu un record cette semaine avec l'élection de Donald Trump. On a l'impression que Donald Trump, c'est un peu le divin enfant quoi pour l'écosystème crypto. On a eu le Père Noël cette semaine. Je vous demanderai dans un instant si c'est bel et bien le Père Noël des cryptos qui a été élu à la tête des États-Unis. Mais sur Bitcoin, la hausse des cours, les records battus cette semaine, est-ce que vous pensez, Claire, qu'on est au début d'un vrai bull run ?
Ça fait quand même plus d'un an qu'on nous prédit un bull run et que beaucoup de gens dans l'écosystème crypto attendent très fermement ce bull run. Donc, je ne vais pas me risquer à des prédictions, mais c'est vrai que quand on analyse un peu ce qui se passe, il y a plein de raisons qui peuvent laisser penser que cette fois, ça y est, on va partir pour une vraie hausse des cours. Alors, je vais en donner plusieurs. La première, c'est une raison temporelle, cyclique. On a passé le halving il y a désormais quelques mois. Donc, vous savez, cette division par deux de l'émission monétaire sur Bitcoin qui, historiquement, catalyse une hausse des cours tous les 4 ans. Donc il y a déjà cet élément temporel qui est très fort. La deuxième raison, c'est qu'on a désormais les ETF Bitcoin Spot qui amènent quand même régulièrement du volume et qui permettent à des institutionnels d'acheter du Bitcoin en masse. Troisième raison, on a une baisse des taux qui arrive. On a la Fed qui a encore baissé ses taux cette semaine de 0,25%, qui va continuer à le faire. Et quand on a une baisse des taux directeurs, souvent on a des investisseurs qui arrêtent de laisser leur argent auprès des banques centrales et qui se mettent à investir de nouveau dans des actifs risqués, notamment Bitcoin. Et donc, quand on analyse un peu toutes ces raisons, on voit que maintenant, avec en plus l'élection de Donald Trump, qui est plus pro-crypto que l'administration Biden, ça fait tout un ensemble d'indices qui laissent penser qu'il n'y a plus grand-chose pour freiner le cours de Bitcoin.
Oui, c'est le patron de Coinbase qui s'est exprimé cette semaine. Il a estimé que l'élection de Donald Trump était une énorme victoire pour les cryptos. S'il n'y a pas de bull run maintenant, Thibault, il n'y en aura jamais ?
Faut pas être pessimiste. En réalité, on dit à chaque fois que chaque cycle est différent et que chaque bull run est aussi différent avec son lot de spécificités. C'est vrai que là, on a quand même un cycle qui est très particulier avec un Bitcoin qui a réagi très tôt, avec un ATH avant le halving, avec les institutionnels qui sont des nouveaux joueurs dans la partie. Dans le dernier cycle, on parlait de l'arrivée des institutionnels. Là, ça y est, ils sont là et ils apportent une nouvelle variable à cette équation complexe de prédiction sur les marchés. On a aussi un petit peu de mal à embarquer le grand public avec un manque d'une narrative. En 2017, on a eu les ICO. En 2020-2021, on a eu les NFT, puis la DeFi. Donc, on arrivait à embarquer du grand public. Là, le grand public peinait un petit peu à venir. On avait des sommets historiques en début d'année et le retail qui était pas là du tout. Et cette semaine, elle m'a quand même pas mal rassuré parce que, avec tout l'engouement qu'il y a eu, on a vu, et j'ai pu le voir de manière hyper factuelle avec les chiffres qu'on a constatés, nous, sur la plateforme, on est sur un facteur de x5 en termes d'augmentation par rapport aux semaines précédentes sur le nombre de connexions, sur le nombre de dépôts, l'investissement des gens. Donc, on a les étincelles qui sont là, on n'est pas loin de pouvoir faire un feu. Il faut continuer notre boulot d'évangélisation, mais je pense qu'on a passé le plus dur.
Oui, et gardez aussi la tête froide, hein, Xavier Fenot a insisté beaucoup dessus. On va passer un pacte, Thibault et Claire, on va regarder aussi en face les angles morts de Donald Trump. Voilà, ce qui manque à son programme peut-être encore quand même pour l'écosystème crypto. Mais on va aussi, bien sûr, regarder ses promesses, parce qu'il a fait des promesses pour l'écosystème au cœur de sa campagne. C'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on vous pose cette question, Claire, Thibault, vous tous, la communauté crypto, cette question peut-être un peu gênante, toujours une question fracassante en tout cas. La question de la semaine, elle a trait à cette élection de Donald Trump. Parmi ces 4 promesses de Donald Trump, laquelle parviendra-t-il le plus facilement à réaliser d'après vous ? Créer un stock stratégique de Bitcoin aux États-Unis, une des promesses de Donald Trump. Attirer plus de mineurs aux États-Unis, autre idée de Donald Trump pendant la campagne. Il a aussi promis, il y a quelques mois, de libérer le fondateur de Silk Road, qui est en prison à perpétuité. Il a promis de le libérer pendant la campagne. Ou sortir, virer, pour dire les choses concrètement, Gary Gensler, le patron de la SEC. Voilà 4 engagements de Donald Trump ces derniers mois. Lequel parviendra-t-il le plus facilement à tenir ? Cette question sur notre fil X BFM Crypto. N'hésitez pas à participer et à nous laisser vos arguments, commentaires. Je vous laisse, Thibault, Claire, un tout petit instant pour bien réfléchir. Ces 4 grandes promesses de Donald Trump, laquelle sera la plus facilement réalisée ? Claire ?
Je dirais la réserve stratégique de Bitcoin.
La réserve stratégique de Bitcoin pour vous. Pour vous, Thibault ?
Bon, pour moi, le licenciement de Gary Gensler qui serait arrivé, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, je pense que c'est la plus facile à tenir.
Nos deux pros des cryptos divergent. C'est vrai, vous êtes tout le temps d'accord à chaque fois sur la question crypto. Vous vous mettez d'accord avant ou pas ? Là, cette fois, non. Vous avez 2 avis, 2 réponses divergentes et différentes. Pour vous, donc, Thibault, c'est sur la réserve stratégique de Bitcoin que Donald Trump aura le moins de mal à tenir sa promesse.
Pour moi, ça.
Non, c'est vous, Claire, ça, ouais. Oui, pardon. Et pour Thibault, c'est Gary Gensler.
réserve stratégique de Bitcoin, pourquoi faire? Et effectivement, comment ça va se passer? S'il parvient à la mettre en place, ça marcherait comment?
Alors, Donald Trump, ce qu'il a simplement dit, c'est qu'il fallait arrêter de vendre les Bitcoins qui étaient saisis lors d'un certain nombre d'enquêtes. Par exemple, les États-Unis peuvent saisir des Bitcoins lorsqu'ils analysent qu'il y a des activités illégales en cours. Et jusqu'ici, on pouvait avoir une vente de ces bitcoins de la part des autorités américaines. Et ce que dit Donald Trump, c'est finalement non. On a tout intérêt à garder ces bitcoins, à en faire une réserve stratégique. Et je pense que c'est une excellente décision, parce que s'il y a ne serait-ce que quelques pourcentages de chances que Bitcoin devienne demain une monnaie mondiale largement utilisée dans le commerce international, c'est très précieux pour un pays comme les États-Unis d'avoir cette réserve stratégique de Bitcoin. Et donc c'est un choix stratégique hyper intéressant. Alors il y a d'autres politiciens américains qui sont encore plus enthousiastes sur ce sujet et qui recommandent même, c'est le cas de Cynthia Lummis, la sénatrice, de faire du DCA, c'est-à-dire qu'elle voudrait que les États-Unis achètent régulièrement du Bitcoin, un peu comme ce que fait le Salvador par exemple. Et elle a un objectif à 200 000 Bitcoins par an carrément. Donc réserve stratégique, ça veut un peu tout et rien dire, hein. Ça peut vouloir dire simplement ne pas vendre les bitcoins qu'on saisit, ça peut aussi vouloir dire aller plus loin et acheter proactivement des bitcoins.
Mais ce serait un gros moteur supplémentaire pour le bitcoin à l'échelle américaine, ou c'est surtout symbolique, quoi? Enfin, je vais vous dire très franchement, je croirais vraiment dans la foi des Américains dans le bitcoin le jour où la Fed, la réserve fédérale américaine, elle-même en achètera pour le coup.
Bien sûr, alors à court terme, ça serait clairement symbolique, mais pour moi, c'est un signal symbolique très fort pour la communauté crypto. C'est pas très difficile à faire, en fait, hein. Si on s'arrête juste de vendre les bitcoins qu'on saisit, franchement, c'est pas très compliqué. Il y a juste des moyens de conservation à mettre en place. Et il y a très peu de risques, finalement, qui seraient pris par Donald Trump et par son administration en faisant cette politique-là. C'est pour ça que moi, je crois plus à cette réserve stratégique.
Ouais, et de votre côté, Thibault, vous pensez que la promesse de Donald Trump, promesse de campagne qu'il réalisera le plus facilement, c'est de sortir Gary Gensler, le patron de la SEC. Il a promis, effectivement, le démettre de ses fonctions. On a une idée de qui pourrait le remplacer, et pourquoi est-ce que vous pensez que ce sera si facile que ça?
Il y a pas mal de monde sur la liste, hein. C'est assez difficile. Alors, il y a le nom de Dan Gallagher qui a beaucoup circulé, qui est le directeur juridique de Robinhood, qui est déjà passé par la SEC dans le passé, qui est plutôt favorable à l'écosystème crypto. En tout cas, il avait critiqué la politique hostile de la SEC il y a quelques temps. Pour moi, Gary Gensler, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faisait plus trop l'unanimité dans les deux camps. Donc, à un moment donné, sa position, elle devenait assez difficile à tenir. Il s'était engagé assez fermement à le faire. Les dernières sorties médiatiques de Gary Gensler, elles laissent aussi un peu entendre, en tout cas moi, de mon point de vue, que c'est pas quelqu'un qui a envie de s'éternaliser ici. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui va être assez facile à faire. Alors, la manière dont ça va se faire, dans quelle échelle de temps, ça c'est plus difficile à dire. Mais je pense qu'on va avoir un renouvellement assez prochainement.
Claire.
Oui, c'est probable. Maintenant, il ne faut pas oublier que la SEC, c'est quand même une agence indépendante. Et donc, Donald Trump, comme n'importe quel président américain, ne peut pas décider comme ça, sans aucune raison, de virer le président de la SEC. Il faut qu'il y ait une cause juste, il faut qu'il puisse prouver qu'il y a une négligence, une incompétence. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une justification, alors qui peut se trouver ici, notamment vu la politique qui a été menée par la SEC sur les cryptos. Mais c'est de l'ordre de l'interprétation, et donc il pourrait aussi y avoir une contestation de la SEC de l'autre côté en disant non, là vous êtes en train de virer notre président parce que il y a une raison politique et pas pour une raison d'incompétence. Donc c'est en fait pas si simple que ça. Le mandat de Gary Gensler, il est de 5 ans, il se termine en juin 2026. Donc on est à peu près certain qu'à partir de juin 2026, de toute façon, Donald Trump et son administration nommeront quelqu'un d'autre. Mais on peut pas avoir de garantie que Donald Trump, en arrivant en janvier, va virer très simplement Gary Gensler.
Alors, pour vous, Thibault, c'est la promesse de virer Gary Gensler que Donald Trump parviendra le plus facilement à tenir. Pour vous, c'est la constitution d'une réserve stratégique de Bitcoin. C'est votre pari, Claire. On va regarder comment nos auditeurs et téléspectateurs, la communauté crypto, BFM Crypto, a répondu. Eh bien, vous êtes une majorité à être d'accord plutôt avec Thibault. Voilà, 1-0. C'est Thibault qui gagne. Gary Gensler out. Vous êtes 44% à penser que Donald Trump va y parvenir. Et juste derrière, Claire, voilà, avec les stocks américains de Bitcoin, vous êtes 37% sur le fil X BFM Crypto à avoir voté pour cette hypothèse, donc de la constitution d'un stock américain de Bitcoin. Ouais, n'hésitez pas à chaque fois à nous laisser aussi vos arguments en commentaire, on essaie de rebondir dessus avec nos pros des cryptos, et puis de vous faire réagir, Claire et Thibault, vous faire réagir au pari de la communauté. En matière de régulation, justement, est-ce que Donald Trump s'est exprimé pendant sa campagne? Est-ce qu'il a fait des promesses sur une régulation des cryptos aux États-Unis, Thibault?
En fait, il a fait pas mal de déclarations, mais il y a surtout une ligne de fond, et c'est là où je pense l'industrie va l'attendre un petit peu au tournant. C'était une expression qu'il a utilisée, c'était de dire qu'il voulait mettre un terme à la guerre contre l'écosystème crypto qui est menée par l'administration actuelle. Alors, et c'est surtout ça en fait qui est attendu, c'est-à-dire que avant de de mettre en place des mesures favorables à l'écosystème. Ce qu'attend l'industrie, c'est surtout que le dialogue soit réouvert, qu'on lui apporte de la clarté et qu'on lui permette de se développer. On passera dans un second temps à des mesures favorables pour pouvoir accélérer, mais c'est d'abord avoir cette clarification qui manque aujourd'hui au territoire américain, bien qu'ils arrivent quand même à développer un certain nombre de structures qui aujourd'hui rayonnent au niveau international. Mais c'est surtout sur ce sujet-là que l'écosystème va l'attendre. Et voilà, il a annoncé pas mal de choses à mettre en place. Il a aussi parlé d'un comité consultatif dédié au sujet crypto pour les sujets réglementaires. Donc voilà, c'est surtout rétablir le dialogue. On va l'attendre à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont aussi participé au financement de sa campagne. Donc on peut imaginer qu'il y a déjà des dialogues qui sont entendus. Maintenant, il a parlé aussi de faire des États-Unis la capitale blockchain et crypto du monde. Ça, c'est un discours souvent entendu. Moi, je me rappelle de la blockchain nation en France il y a encore quelques temps. Ça reste du discours politique. Maintenant, il va falloir voir dans les actions, en concret, comment ça se passe.
On continue d'essayer de mesurer si le marché crypto a raison de s'enflammer, de s'emballer et de battre des records alors que Donald Trump a été élu. Est-ce que le programme de Donald Trump justifie les records des cryptos, notamment du Bitcoin? On continue d'ausculter les choses. On continue de dérouler le programme crypto de Donald Trump. Et attendez un instant, là, Claire et Thibault. Notre réalisateur Chris en régie veut aussi réagir. Chris?
Ben, je vous entends dérouler son programme, mais en même temps, il n'est peut-être pas totalement favorable aux cryptos. Certes, il fait monter les taux, le dollar. C'est bon ça pour Bitcoin ?
Bitcoin, Chris. Non, mais il a raison. Là, il y a un angle mort. Pour le coup, Donald Trump, il y a des promesses. Sauf que son programme économique global risque de faire monter les taux américains. C'est un programme assez inflationniste. Si les taux américains montent, si le dollar monte, ça, ce ne sera pas favorable en l'occurrence aux cryptos et au Bitcoin, Claire.
Non, bien sûr, mais là, de toute façon, on est en train de parler des promesses de Donald Trump. On n'est pas en train de parler des réalisations de Donald Trump. Et là, on sort d'une campagne électorale où chaque candidat a fait un certain nombre de promesses, des promesses parfois contradictoires, hein, d'ailleurs. Donc, on attend vraiment de voir quelles promesses vont se réaliser. Je pense qu'il y a un enthousiasme parce que certains ont peut-être plus cru aux promesses de Donald Trump, ou alors elles allaient encore plus loin que les promesses de Kamala Harris. Mais on est bien d'accord que tout dans le programme de Donald Trump n'est pas libéral, n'est pas favorable aux cryptos, etc.
Ah oui. Chris, t'interviens quand tu veux. Hein. Tu le sais, chaque semaine dans les pros des cryptos, c'est ta libre antenne. À chaque fois, fais-toi plaisir. Il se prive pas, c'est pas la peine que je lui dise. Mais enfin, ouais. D'ailleurs, pour rebondir sur la question de Chris, et essayer toujours de débusquer quand même ces angles morts dans le programme de Donald Trump, Thibault, il s'est exprimé sur les monnaies numériques de banque centrale aussi pendant la campagne. Et il a clairement partager sa position. Sa position, c'est non, non à un dollar numérique. Pardon, mais ça aussi, ce ne sera pas très favorable aux cryptos, parce que tous les experts crypto nous disent, le jour où il y aura un avènement des monnaies numériques de banque centrale, les gens voudront se réfugier dans les cryptos. Lui, il est contre. Ça veut dire que les gens n'auront pas besoin de se réfugier dans les cryptos, en l'occurrence, Thibault.
Ouais, là, c'est le sujet, il est un petit peu plus subtil que ça. Alors, je ne sais pas si c'est calculé ou pas, mais parce que pour moi, les monnaies numériques de banque centrale ne sont pas du tout à mettre dans le même panier que les cryptos. En prenant la décision de s'opposer aux monnaies numériques de banque centrale, c'est un petit peu comme s'il disait, bon bah j'ai compris que le camp crypto était contre ces MNBC, mais je vais me positionner aussi contre les MNBC et pour leur montrer aussi que j'ai bien compris, même si ça paraît un peu contre-intuitif, parce que quand on parle des MNBC, le grand public en vitrine entend blockchain, entend crypto, et on peut avoir l'impression que c'est une mesure qui va à l'encontre, mais j'ai l'impression en tout cas que si c'est fait volontairement, c'est plutôt habile envers l'écosystème de se positionner de cette manière-là. Et au-delà de ça, ça, pour le coup, ça s'inscrit aussi dans un autre combat qui était le sien autour de la liberté fondamentale, autour de la défense de la vie privée. Il avait critiqué notamment l'arrestation de Pavel Durov quand il s'est fait arrêter en France. Donc, ça s'inscrit aussi dans cette lignée-là. Après, c'est pareil globalement. Est-ce que les MNBC contribueront au développement de la crypto? Est-ce que les MNBC vont faire que les gens vont se réfugier dans la crypto? Pour le coup, on a tellement peu de détails sur la forme réelle que vont prendre ces MNBC que c'est assez difficile à dire.
Est-ce que le fondateur, ça va être un autre des points à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que le fondateur de Silk Road sera libéré? Il a été condamné à perpétuité. Il s'appelle Ross Ulbricht et Donald Trump, pendant sa campagne, a promis de le libérer. Il sera très suivi sur cette promesse-là, on imagine, Claire.
Il sera bien sûr très suivi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Silk Road, c'était une plateforme de commerce en ligne, voilà, dite libre, qui garantissait la vie privée, qui permettait à ses utilisateurs d'être anonymes. Silk Road avait été créé en 2011, avait été très largement utilisé pour du commerce illicite, notamment la vente de drogue. Au bout de 2 ans, son fondateur, donc Ross Ulbricht, avait été arrêté, avait effectivement été condamné à perpétuité avec une peine incompressible de 40 ans pendant laquelle il ne peut pas être libéré. Et cette peine est jugée par une grande partie, on va dire, des personnes qui sont fans de crypto, mais aussi des libéraux, comme étant exagérée. par rapport à ce qui a été commis. Alors, c'est vrai que vu de France, ça nous paraît peut-être beaucoup, hein, une peine de prison à vie. Chez nous, c'est généralement réservé à des choses encore plus graves. Et donc, il y a une espèce d'élan populaire pour essayer de convaincre le président des États-Unis de gracier, ou en tout cas de réduire la peine de Russell Brist. Il y a même une pétition qui a été signée par 600 000 personnes, ce qui en fait la pétition la plus grande pour essayer de libérer une personne aux États-Unis.
Incroyable.
Maintenant,
il ne
faut pas oublier que Donald Trump, il a aussi une position extrêmement dure sur la drogue. Et on le voit d'ailleurs, son élection a généré une baisse très violente des actions de certaines entreprises spécialisées dans le cannabis.
Et en bourse, les acteurs des prisons, parce que les opérateurs des prisons sont cotés en bourse aux États-Unis, les acteurs des prisons ont gagné 50% en bourse cette semaine.
Tout à fait. Donc on voit bien qu'il est là face à une sorte de contradiction, parce qu'à la fois il veut être très dur sur le sujet de la drogue, et en même temps il a fait cette promesse aux détenteurs de crypto d'aller libérer Russell Brist. Donc on va voir quelle promesse il va tenir à son élection en janvier.
Bon, les pros des cryptos, c'est chaque vendredi, à suivre aussi tout au long du week-end sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Je pense qu'on a bien détaillé le programme de Donald Trump, les chances plus ou moins importantes de se réaliser, des différentes promesses. Vous avez l'œil partout d'ailleurs dans cet univers crypto, Thibaut. Quels autres cryptos, parce qu'on a parlé du Bitcoin, quels autres ont également progressé et profité de l'élection de Donald Trump ces derniers jours?
Bah, globalement, on a l'ensemble de l'ensemble des cryptos, hein, qui ont bénéficié de cette semaine. Je crois qu'il y a quasiment 100% du top 100 qui affiche des performances positives sur la semaine. On a quand même quelques actifs qui se détachent, notamment les grands layer one historiques, hein, Ether, Sol, qui continuent encore, ADA, voilà, des acteurs qu'on n'avait pas forcément vu très performants en termes de cours sur cette année, qui ont repris les couleurs. On a aussi l'écosystème DeFi que je trouve qui est intéressant de regarder avec Aave, avec Uni, avec Lido qui ont pris des performances intéressantes cette semaine. Donc voilà, mais globalement l'ensemble des cryptos ont pris de la valeur. Donc là, ce qu'il faut surtout regarder, c'est quelle catégorie, ou en tout cas quelles cryptos vont réussir à installer ça de manière durable, ou est-ce que c'est juste une euphorie éphémère?
Après, il ne faut pas être naïf sur l'attachement de Donald Trump aux cryptos. D'abord, cet attachement, il est tardif. Il s'est révélé cet attachement en pleine campagne électorale, comme par hasard. Qui dans les cryptos avait le plus financé justement sa campagne? Qui lui a donné le plus d'argent? Et donc, envers qui plutôt? Donald Trump sera-t-il le plus redevable une fois de retour à la Maison-Blanche? Il arrivera à la Maison-Blanche en janvier.
Alors, la personne la plus connue là-dedans, c'est évidemment Elon Musk, même si c'est pas un acteur de la crypto, c'est quand même quelqu'un qui est ouvertement pro-crypto et puis qui avait fait un certain nombre de tweets sur Bitcoin, sur Dogecoin, etc. Donc, Donald Trump est évidemment très, très redevable envers Elon Musk. Mais je pense aussi aux frères Winklevoss, par exemple, qui sont les fondateurs de la plateforme Gemini, qui avaient annoncé donner 2 millions de dollars. Alors, comme il y a des histoires de plafond, ils ont dû être remboursés d'une partie, mais ils avaient quand même fait un don assez conséquent pour la campagne de Donald Trump. Et puis, je pense aussi au fonds de capital risque Andreessen Horowitz, qui avait fait un don très conséquent, qui est un fonds qui est connu pour investir massivement dans le secteur crypto. Donc effectivement, il y a pas mal de donateurs. Après, il y a sans doute aussi beaucoup de particuliers dont on ne connaît pas les noms qui ont fait un certain nombre de dons à cette campagne. Il ne faut pas oublier que même s'il y a eu beaucoup de dons de la part du secteur crypto pour Donald Trump, il a eu beaucoup plus de difficultés à financer sa campagne que Kamala Harris, qui, elle, a bénéficié de financement de très nombreuses entreprises privées. Je pense particulièrement à Google et à des entreprises de la Silicon Valley, qui ne sont pas nécessairement des entreprises crypto, mais qui ont massivement financé sa campagne.
Thibault, il ne va pas diriger seul. Alors certes, le Congrès sera républicain. On attend encore le résultat définitif à la Chambre des représentants, mais les républicains sont bien partis pour l'emporter et au Sénat et à la Chambre des représentants. Mais est-ce que le Congrès est aussi pro-crypto que Donald Trump?
Alors, en tout cas, ce qui va simplifier pas mal de choses, c'est le fait d'avoir effectivement un congrès qui est républicain. On va avoir un alignement en termes des visions qui devrait pouvoir simplifier la discussion. Après, tu l'as justement souligné, l'ensemble du congrès n'est pas forcément pro-crypto. Chez les démocrates et chez les républicains, il y a des pro-crypto, il y en a qui sont un petit peu plus sceptiques, et il y en a qui sont aussi pas forcément éduqués sur le sujet. Donc maintenant, ça va être des discussions qui vont être longues. On parlait tout à l'heure de réouvrir le discours avec l'écosystème. On part quand même pas d'une feuille blanche, mais en tout cas, on part quand même un petit peu de loin. Donc forcément, c'est des décisions qui vont prendre du temps, et avant de voir des actions concrètes, à mon avis, il va falloir quand même attendre un petit peu. Mais globalement, on semble avoir des dispositions plutôt favorables.
Les paris pendant cette campagne électorale sur Polymarket avaient vu juste, hein, sur cette présidentielle. Il y avait de vrais paris très forts sur Donald Trump, et il se trouve qu'il l'a emporté haut la main face à Kamala Harris. Les parieurs avaient vraiment vu juste. C'était sur Polymarket. Cacher ce thermomètre que je ne saurais voir. La France va, d'après les infos de The Big Whale, interdire cette plateforme Polymarket, Claire ?
Oui, ils ne seraient pas les seuls, puisque les États-Unis ont déjà suspendu l'accès à Polymarket. Alors, pourquoi ? Polymarket, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est une plateforme de marché prédictif. Donc, vous pouvez parier sur globalement tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, est-ce que Donald Trump va être élu ? Qui va gagner la Coupe du Monde de foot ? Est-ce que Taylor Swift sera mariée l'an prochain ? Etc. Et donc, ça attise forcément, ça prend beaucoup d'attention. En France, ça a fait beaucoup de bruit, puisqu'il y a un parieur qui avait placé 30 millions de dollars sur la victoire de Donald Trump et qui en a gagné 50. Et donc forcément, ce sont des gros chiffres qui font que les médias en parlent beaucoup. Et en France, c'est l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux, qui s'est beaucoup penchée sur cette plateforme, tout simplement parce que Polymarket n'a fait aucune déclaration à l'ANJ et que les paris, en France, comme dans beaucoup de pays, c'est un métier qui est régulé. Et donc, vous imaginez bien que les Betclic, Winamax, etc., quand ils voient débarquer Polymarket, qui fait tout ça de manière totalement dérégulée et qui amasse beaucoup d'argent, ils ne sont pas très contents non plus. Donc, on est face ici à une question comme on avait eu avec Sorare il y a quelques années sur le statut de Polymarket. On rappelle quand même que même si c'est interdit, beaucoup de gens vont pouvoir et vont continuer à y accéder avec un VPN.
Exactement, parce que c'est de la blockchain.
Tout à fait.
C'est Claire Balva pour Deux Blocs qui nous accompagnait, Thibaut Boutroux pour Meria. Il y avait beaucoup d'autres sujets dont on aurait aimé, adoré parler, mais là, il y a une actualité effectivement en forme de raz-de-marée cette semaine pour l'écosystème crypto après ses nombreux records. Merci à tous les deux. Les pros des cryptos, retrouvez aussi tout au long du week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Merci.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.